France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Il imagine Elon Musk mettant à prix la tête de Vladimir Poutine pour $1 milliard. Avec Wanted, son nouveau roman, Philippe Claudel livre une charge finalement à peine outrancière sur le duo Musk-Trump. Il est mon invité à partir de 13h. Et d'abord, on se fait une toile, en tout cas on se fait un avis, sur deux films qui sortent aujourd'hui. Life of Chuck, le réalisateur Mike Flanagan, plutôt orienté horreur, adapte une nouvelle fois Stephen King. Et puis A New Old Play, fresque historique et première fiction de l'artiste chinois Qiu Zhongzhong. Vous écoutez les midis de culture et c'est bien, continuer. Et les critiques du jour, je vous les présente. Raphaël Pirer, critique de cinéma pour le site AOC, bonjour.
Bonjour Marie.
Thierry Chaise, directeur de la rédaction du magazine Première. Bonjour et bienvenue à tous les deux. On commence donc avec le nouveau Mike Flanagan. Si vous êtes un peu branché, film d'horreur, tendance sentimentalo-lacrymale, vous avez peut-être vu une de ses séries télévisées, telle Haunting of Hill House, ou un de ses films comme Ouija. De la même façon, vous avez sûrement lu Stephen King. C'est la troisième fois que les univers de l'un et de l'autre se croisent sur grand écran après Jesse et Dr. Sleep. Mais point de terreur dans Life of Chuck. On est ici dans la veine merveilleuse et humaniste de Stephen King. L'histoire: le monde est en pleine apocalypse, les étoiles s'éteignent, les séismes s'enchaînent. Aux États-Unis, partout, des publicités rendent hommage à un certain Chuck pour ses 39 années merveilleuses. Partout, des « Merci Chuck ». Or, on le comprend, dans la première partie du film, ce même Chuck est en train de mourir d'un cancer. Que s'est-il passé? Le film remonte le temps pour vous l'expliquer. On commence avec un avis rapide, Thierry Chaise.
Je trouve que c'est un film fantastique dans tous les sens du terme.
Parfait, Raphaël Pirer.
Ah, moi, je suis un petit peu plus longue dans mon premier avis. À un moment, on a la voix off d'un narrateur omniscient qui est en fait Stephen King, qui est une voix tirée de la nouvelle, et qui dit « La vie de Chuck était plus étroite que ce qu'il avait cru un jour, mais il a compris que l'étroitesse est l'ordre naturel des choses. » Et c'est vraiment ça le mouvement du film, c'est partir de quelque chose de très ample de l'ordre de l'apocalypse et d'arriver à ce que c'est qu'une existence humaine. Sauf que le film échoue précisément à jouer sur cet écart et à s'intéresser à ce qu'il vante pourtant à grand renfort. Cette idée de la modestie, de la simplicité, de l'humanité d'une petite vie. Tout ça, en fait, il n'arrive pas du tout à le raconter. Ça n'a pas l'air de l'intéresser tant que ça. Et donc, ça vire pour moi vraiment au sentimentalisme et à la grandiloquence.
Alors, on va continuer, bien sûr, à discuter de tout ça. On se retrouve dans une petite minute après la bande-annonce de Life of Chuck.
When you look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. It won't lie to you. It's pure that way.
Ce que tu verras dépassera peut-être ce que tu voulais savoir. Mais tant qu'on a du cœur, l'espoir demeure. Et toi, tu as un grand cœur.
Le monde, Chuck. Tout ce que tu aimes. Tout ce que tu vois. Au fil des années, ce monde deviendra plus grand, plus lumineux.
Life of Chuck de Mike Flanagan. Alors Thierry Chaise, très enthousiaste ce matin.
Très enthousiaste et très nostalgique, parce que si ce film était sorti dans les années 90, je serais sans doute pas aussi enthousiaste, mais c'est le genre de film qu'Hollywood ne fait plus, et la preuve c'est qu'il est distribué par un tout petit distributeur français, mais qui a ce courage-là, qui s'appelle Nourfilm, alors que ces films-là avant étaient plutôt distribués par les Metropolitan ou par des studios. Voilà, c'est un monde qui a disparu, et donc moi je suis tellement heureux de voir revenir un film qu'on ne peut pas résumer en une phrase. Vous êtes lancé dans j'attendais comment vous alliez le dire. Je suis tellement heureux de voir un film américain qui est un peu imposant, fait par un réalisateur qui fait des cartons sur Netflix ou en salle avec l'horreur, qui ose faire un film, enfin, où on devine pas dans la seconde qui suit ce qui va se passer. Et moi, je me suis fait totalement embarquer par ce récit, en effet, gigogne, par ce Chuck où qui est ce fameux Chuck quand on découvre que c'est un petit comptable. On se dit, tiens, très bien, où est-ce qu'il va nous amener? Et moi, j'ai complètement fonctionné à cette mise en rebours avec des scènes qui, à elles seules, pour moi, justifient la découverte du film, qui est à un moment, cette scène où il se met à danser dans la ville. Je ne sais plus, j'allais dire c'est 10 minutes, peut-être que ça dure 5 minutes ou 3, mais j'ai trouvé ce moment incroyable. Et du coup, ce mélange des genres qui existe entre un mélo assumé à 1000%, et c'est vrai qu'on l'entend avec la bande-annonce, moi, je comprends qu'on soit complètement réfractaire à ça et que ça crispe. Mais moi, j'ai complètement marché, entre en effet des moments totalement musicaux et cet aspect fantastique qui est présent dès le départ, donc avec cet apocalypse qui frappe Los Angeles et plus largement le monde, et puis la raison cachée de toute cette existence. Et j'ai trouvé que cet alignement-là, qui moi m'a sans cesse surpris, surtout vraiment, moi je m'attendais, Stephen King, Flanagan a de l'horreur pure et dure, et moi je suis plutôt réfractaire à ça. Et donc tout le long du film, je me disais, mais est-ce que je suis... Comme j'aimais bien, je dis, mais je dois être dans un très bon état, ça doit être vraiment... non, mais j'ai vraiment accroché à ça, à un film qui m'a surpris à chaque instant, et en même temps où je vois à l'arrivée une cohérence totale, et où tout me... à chaque fois que je vois une scène, ça me permet de réexpliquer ce qu'il y a eu avant, le souligner et m'émouvoir.
Raphaël Pirard.
Moi, je suis pas tellement sensible à cette structure narrative, en fait, qui fonctionne à rebours et qui fait que dès qu'on s'installe dans la salle de cinéma, on voit acte 3 et donc on se dit zut, j'ai manqué tout ce qui précédait. Et en fait, l'histoire, la vie de Chuck va nous être racontée par ordre antichronologique. Et finalement, cette structure-là, elle fait qu'on court après des indices, après des effets qui vont nous permettre de comprendre de quoi il s'agit, pourquoi ça nous est raconté à l'envers, pourquoi on ne comprend rien et donc on perçoit des petites incohérences, le fait que un autre personnage a habité dans la même maison que Chuck. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on doit glaner pour essayer de comprendre de quoi il retourne. Et finalement, cet ordre antichronologique, une fois qu'on comprend dans le dernier chapitre, ça se dégonfle, ça se déballonne complètement, à mon sens. Et ça fait qu'on se dit, ah bah tout ça pour ça. Et il y a un effet un peu... jeu de piste, un peu un peu escape game, qui fait que on est comme dans Usual Suspect de Bryan Singer, où une fois qu'on sait qui est Kaiser Soze, bah en fait le film perd de son intérêt et puis on se le reconstruit à rebours et on se dit ah mais c'était tout ça pour ça. Et donc moi j'ai un effet comme ça de sentir que cette construction elle est très artificielle et qu'elle voudrait nous faire ressentir quelque chose, mais moi je passe totalement à côté des émotions du film qui pour moi est une espèce de construction intellectuelle assez vide.
Sur ce que disait Raphaël Pirard au début de l'émission, le fait que, à son sens, le film échoue à montrer la modestie qu'il avait envie de montrer, en fait.
Ah, moi, j'ai ressenti exactement l'inverse. Ouais. J'entends complètement. Et moi,
parce que c'est ça qui est au cœur du sujet, quand même. Une vie toute simple.
Une vie toute simple, mais la mise en scène, une vie toute simple, n'a pas forcément à être modeste. Moi, ce que j'ai aimé dans cette construction, c'est que, en effet, il y a un jeu de piste. Et en même temps, à chaque scène qui se passe, moi, j'y prends un plaisir. Je ne suis pas juste en train de me demander « Ah tiens, ouais. Moi, je trouve qu'au départ, dire 3-2-1, ça permet comme ça de dire la règle du jeu. Au contraire, de dire « Voilà, ça va être ça. » Donc, puisque ça va être ça, regardez le film comme ça, profitez-en, mais vous savez qu'à un moment, ça va arriver. Et moi, je trouve ça, précisément, un geste plutôt modeste vis-à-vis du spectateur, de dire « Je vous donne les clés dès le départ. Ne cherchez pas. S'il y a des incohérences, c'est normal, plutôt que de ne rien indiquer et de prendre, justement, le spectateur de haut. » Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment fonctionné, mais à chaque mini-scène, à chaque direction d'acteur, je sens pas ça comme un escape game et comme un film de petit malin. Je sens une profonde sincérité, comme le jeu de Tom Hiddleston, qui est le principal, qui est quand même un acteur qui joue dans Loki, qui accepte finalement de un film dont il a tête d'affiche, où il apparaît, pour résumer, en un tiers du film à peu près. Et ben c'est ça le film. Moi je trouve, enfin, il y a une ambition. Alors c'est pas un film modeste, mais il y a quelque chose, une petite ligne, et il y a un lien tendu vers le spectateur. Une fois encore, moi ça me rappelle des films comme La Ligne Verte, des choses comme ça, où on pouvait trouver ça mais ultra large moyen, et je comprends. Moi, je suis content d'être rentré dedans, en fait. Je suis vraiment heureux d'être rentré dedans, mais je vois tous les pièges où on peut se dire, ah non, là, c'est trop. Ah, il va pas nous faire ci. Ah, il va pas nous faire ça. Ah, il va pas nous faire le grand-père, qui est en plus joué par Marc Hamill. Ouais. Il y a plein de ficelles, mais comme dans un mélo ou dans une comédie romantique qu'on adore, bah moi j'ai adoré ces ficelles-là et j'étais comme un gamin à jouer à cette escape game en tout cas.
Raphaël Pierre.
La deuxième partie du film, c'est une scène de danse. Et moi, je reste un peu sur ma faim en termes de mise en scène à ce moment-là. Effectivement, on a notre comptable qui vit un espèce de moment d'épiphanie vers ses 40 ans, quoi, et qui se met à danser dans la rue. Et donc, ça crée un moment de comédie musicale au sein de sa vie qui est une vie toute simple et toute étroite. Et moi, ça me fait penser à une séquence très virale d'une émission de télé en 2013, une émission de télé anglaise dans laquelle Tom Hiddleston s'est mis à danser, et c'est vrai que c'est un formidable danseur. Et cette petite séquence d'une minute là, de sa danse improvisée comme ça sur un plateau de télé, se tourne sans arrêt sur internet, sur les réseaux sociaux, et j'ai l'impression que c'est exactement mis en scène de cette même façon dans le film, et que c'est un vrai problème le fait de ne pas réussir à faire décoller ce moment de danse, alors qu'il y a d'autres moments de danse où c'est son personnage mais enfant qui apprend la danse avec sa grand-mère puis dans un cours à l'école. Et là, ce jeune acteur est assez extraordinaire. Et là, on a une espèce d'étincelle de vie qui fonctionne bien. Mais sinon, quand on est avec Tom Hiddleston, je trouve qu'on n'arrive pas à comprendre les deux parties de sa vie qui seraient, d'un côté, il a choisi une voie plutôt sage, qui est celle d'être comptable et d'avoir une petite vie de famille. Et d'un autre côté, il rêvait de comédie musicale, il rêvait d'être Gene Kelly. Et l'apprentissage de la vie, c'est d'apprendre qu'on n'est pas Gene Kelly et qu'il faut s'en satisfaire, quoi. Mmh. Et en fait, en termes de mise en scène, je trouve qu'on est loin de réussir à filmer à la fois la modestie et à la fois l'ampleur de ce que serait cette comédie musicale, qui se transforme aussi en film de fantôme. Et le film parle beaucoup aussi de Walt Whitman, qui revient à plusieurs reprises avec son poème Song of Myself, où il dit « Je suis vaste, je contiens des multitudes ». Donc le film théorise le fait qu'il se contredit lui-même, sauf que à la fin, une fois qu'on a la résolution, toutes ces contradictions, elles sont trop contradictoires d'une certaine manière, et elles n'arrivent pas à composer un personnage de Chuck qui serait complexe et qui aurait plein de facettes, mais elles construisent quelque chose qui est contradictoire au point de ne pas faire totalité.
Thierry Chaise.
Moi, je trouve que ce puzzle fonctionne au contraire complètement et que c'est presque la modestie, qu'en effet, les scènes au moment de l'enfance avec sa grand-mère ne soient pas mises en scène comme celle-ci. Moi, celle-ci, je trouve que c'est digne de ce que peut faire Chazelle dans La La Land. Et d'autant plus qu'il y a un surgissement, c'est l'inattendu, et que je trouve qu'il n'y a pas besoin de multiplier justement des mises en scène un peu. C'est comme le spectateur, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et on savoure, et moi, je savoure l'accompagnement. Alors, je ne connaissais pas du tout ce qu'il avait fait sur je vais aller voir du coup sur internet cette minute qui est devenue virale, mais il y a quelque chose enfin moi je le sens, un acteur qui s'amuse, un metteur en scène qui alors moi j'ai pas lu l'œuvre originale de King, mais qui connaît tellement bien King, ce qu'il a fait, qu'il doit vraiment sentir la substantifique moelle de ça, et vraiment, mais moi je suis client, c'est-à-dire que j'ai l'impression, je me dis mais ça va être quoi ensuite le nouveau jeu. Et la simplicité vient peut-être, en effet, c'est un personnage qui n'a pas 50 000 choses très complexes. Mais ce qu'il y a à l'écran, moi, fonctionne. Et moi, c'est vraiment, je suis sorti de là en larmes et ravi.
Ravi
que le cinéma américain propose ça. Et triste que, en fait, on voit bien, c'est des films qui échappent évidemment à la campagne des Oscars, parce qu'il n'y a pas de star absolue, il n'y a pas un pitch résumable, il n'y a pas quelque chose, justement, une grosse batterie, une grosse fanfare. Et ben voilà, si c'est le dernier écho dans Hollywood qui est mort, je suis content d'avoir assisté à cet écho-là.
Life of Chuck de Mike Flanagan. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Thierry Chaise.
Le rendez-vous de l'été. Ah, ça sonne voilà, ça sonne bon comme un film d'Éric Rohmer, et ça pourrait ressembler en effet à d'Éric Rohmer ou aussi du Guillaume Brac. C'est l'histoire d'une jeune Normande qui débarque en juillet dernier à Paris, au moment des Jeux Olympiques, pour assister à des épreuves. On va voir que ça va pas être aussi simple que ça, et surtout rencontrer sa demi-sœur qu'elle a perdue de vue depuis des années. C'est une jeune fille très timide, qu'on sent très mal dans sa peau, et ce rendez-vous de l'été, eh bien, ça va être la chrysalide qui devient papillon. C'est comment une jeune fille très vulnérable, qui a toujours l'envie de faire plaisir aux autres, qui d'ailleurs ne fonctionne que par le regard des autres, va peu à peu, parce que tout va pas se passer comme prévu au moment des JO, Et parce que sa demi-sœur, qui a du mal à se remettre d'une rupture, est assez rude avec elle, et ben elle va peu à peu prendre cet espace-là. C'est un film tout simple, tout doux, qui vraiment avec un charme absolument dingue, qui est porté par une actrice qui s'appelle Blandine Madec, qui avait déjà travaillé dans le court-métrage précédent de cette réalisatrice Valentine Kadic. Mais il y a quelque chose où... ce rôle épouse totalement qui elle est. On pourrait, moi, elle peut lire le bottin, elle peut rester comme ça, le visage à l'écran. Je pourrais passer une heure et demie, deux heures avec elle. Et ça fait du bien, un film tonte qui a à la fois cet aspect documentaire, tourné pendant les JO, qui est quand même un exploit quand on est une toute petite structure pour avoir les autorisations. Et voilà, on sort de là avec un sourire aux lèvres et comme dans les plus beaux films de Romère ou de Braque.
Merci Thierry Chaise. Le rendez-vous de l'été, c'est Valentine Kadic.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On enchaîne avec un film chinois qui a mis 4 ans à arriver sur nos écrans, A New Old Play. Terminé en 2021, la censure ne lui a jusqu'ici permis que de participer à des festivals, pour le meilleur d'ailleurs, puisqu'il a obtenu le prix spécial du jury à Locarno. À la réalisation, un plasticien et documentariste, Chu Jongjong, qui signe donc sa première fiction dans un geste très particulier. Raconter l'histoire d'une petite troupe de théâtre de la région du Sichuan et celle de la Chine dans un même mouvement, le tout entièrement filmé en studio, dans un décor de carton pas totalement assumé. C'est une fresque de presque 3 heures, fantastique, tragicomique, qui explore en fait les souvenirs d'un acteur clown sur le point de passer dans l'au-delà. On commence avec un avis rapide, Raphaël Pirer.
Oui, on peut mettre en balance les deux films du sommaire d'aujourd'hui sur cette question de filmer du modeste et filmer de l'ambitieux à la fois. Et c'est exactement ça dans ce film chinois, l'idée de filmer très simplement 50 années d'histoire et puis 50 années aussi d'évolution de la forme théâtrale. Et moi, j'ai été assez sensible à ce présupposé formel de faire un cinéma qui soit très théâtral. Et puis de partir de quelque chose d'un point de vue narratif, de montrer ces acteurs qui en fait ne jouent jamais, qui ne sont jamais sur scène et qui ne se produisent quasiment pas. Et j'ai aimé cette contradiction du film.
Thierry Chaise.
Moi, je trouve que c'est vraiment un train fantôme qui avance dans la nuit, qui est impressionnant, massif et aussi écrasant et épuisant.
On va écouter tout de suite, pour se faire une petite idée de l'ambiance, un extrait de la bande-annonce. A New Old Play de Chu Jongjong, Raphaël Pirer. Peut-être qu'on peut décrire déjà ce qu'on voit à l'écran, quelle est la plasticité de ce film.
En fait, ce film, il est donc tourné en studio intégralement et il est très frontal. Il filme la vie de cette néo-troupe fondée en 1927 comme si on était au théâtre. Et donc, il y a tout un jeu comme ça pendant tout le film sur est-ce qu'on franchit le quatrième mur ou pas. Et on a des mouvements de caméra. Vous disiez que le réalisateur a fait du documentaire. Il est plasticien aussi. Il a fait de la peinture. Et on a des mouvements de caméra qui... qu'on peut voir comme venant du cinéma expérimental, de quelqu'un comme Michael Snow, par exemple, comme un mouvement prédéterminé qui est mécanique et qui balaye l'espace dans des travelling latéraux. Et puis, moi, ça me faisait aussi penser à l'esthétique du rouleau de la peinture chinoise et au fait que ces scènes, elles représentent quelque chose sur une horizontalité très vaste, comme ça, qui dépasse les personnages. Donc, on est comme face à un cinéma des premiers temps, avec des décors en bois, peints, et puis très peu de détails, quoi. Vraiment une scène très minimaliste.
Thierry Chaise, alors est-ce que ça a fonctionné pour vous, ça?
Moi, vraiment, formellement, esthétiquement, c'est extrêmement, extrêmement impressionnant. En effet, on pense au cinéma des premiers temps, on peut penser à ce que fait Greenaway aussi par moment, et surtout, il y a un accord entre cette forme et le fond. Moi, je me suis senti cependant totalement écrasé par le film. C'est le genre de film, de toute façon, on vous dit, voilà, c'est un film de génie, donc vous n'avez plus rien à dire. Parfois, dans des films historiques qui sont trop polissés, on se dit, voilà, faut que je rentre avec des pantoufles, sinon j'ai tout abîmé. Là, j'ai l'impression que je pose un œil, je suis en train de déranger une installation qui, en fait, moi, c'est à la fois une qualité du film, et moi, c'est ce qui m'a tenu à distance, c'est que ce film ne cherche pas à occidentaliser son propos, ne cherche pas à dire, je vais vous raconter l'histoire chinoise à travers ce que vous savez, mais à travers un regard de quelqu'un qui est chinois. Moi, il me manque vraiment énormément d'éléments. C'est-à-dire, tout le film, je suis en train de courir après, je me dis, mais qu'est-ce que... Alors oui, je vois bien Mao, je comprends bien, mais il me manque, en fait, les trois quarts
des références,
et qui fait que je suis, en effet, un spectacle visuel incroyable, mais que je me sens aussi comme dans une pièce de théâtre qui n'aurait pas d'entracte et où on peut pas partir avant la fin. Et moi, j'aurais été ravi de voir ça en installation dans un musée, 10 minutes par 10 minutes, sur des écrans massifs. Je suis sidéré par la beauté, et il me manque quelque chose que moi j'avais vu dans... Il y a un film qui s'appelait « Vivre et chanter » de Johnny Ma, qui racontait une troupe comme ça de théâtre Sichuan, et où, d'un seul coup, il me tendait la main. C'était moins ambitieux d'un point de vue esthétique, mais en même temps, là, je suis vraiment devant l'œuvre d'un grand maître que je contemple, et j'y prends un grand plaisir cérébral, et pour le reste, je m'ennuie un peu.
Raphaël Pierre.
Oui, c'est vrai qu'il y a un effet de distanciation totalement dans cette façon de raconter. On est très souvent à distance physiquement des personnages, puisqu'on est beaucoup dans des plans larges, et que cet effet de distanciation, il fait qu'on n'est pas complètement dans l'émotion.
Ce sont des tableaux, beaucoup.
Oui,
c'est ça.
Oui, voilà. Ce sont beaucoup des tableaux, effectivement, qui renvoient beaucoup à l'origine du cinéma aussi. Ce film raconte à rebours l'épopée du personnage qui arrive jeune orphelin dans une troupe de théâtre, et c'est pas tellement pour le théâtre ou pour jouer la comédie, c'est surtout pour être nourri et logé qu'il devient comédien. Et ça, c'est un fil rouge qu'on va avoir dans tout le récit et qui est assez émouvant quand même, qui est que tous ces comédiens, en fait, le théâtre, le texte, le jeu, ça les intéresse pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est survivre. Et on ne les voit que dans des stratégies de survie. Et donc, moi, j'aime bien cet inversement, comme ça, de filmer la vie quotidienne, la chronique, comme si c'était une scène de théâtre. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est aussi que derrière ça, il y a l'idée que dans une dictature, de toute façon, on est toujours en train de jouer un rôle. On est toujours obligé de se mettre en scène, de se représenter face au pouvoir, face à ses émanescences, parce que de toute façon, on ne peut pas être soi-même et il faut toujours un petit peu mentir. Et donc ce petit garçon, ce petit orphelin, dès le début, il est pris en train de chaparder et il ment. Et donc ce que ça raconte finalement, ça raconte peu la scène, même si le réalisateur est petit-fils de comédien, de chanteur d'opéra et s'appuie beaucoup sur ses souvenirs d'enfance. Mais finalement, ce qu'il raconte à travers ses comédiens, c'est plus ce qu'a été la traversée de 50 années d'histoire de Chine et comment la forme théâtrale a pu évoluer aussi selon les moments politiques que le pays a traversés. Par exemple, quand on est au moment de la révolution culturelle, la scène théâtrale, ça devient un moment d'autocritique. Et donc, tout le monde se met à s'autocritiquer d'avoir consommé de l'opium qui était suscité par le gouvernement précédent. Donc, la forme théâtrale, comme ça, vient nous raconter quelque chose de ce qu'est la vie politique et ce que c'est qu'être un citoyen chinois dans cette époque-là. Et donc ça, c'est quand même fait de façon très intelligente.
C'est très intelligent. Moi, en fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a quand même tout un côté farce et humour dans le film.
Mais dont on n'a pas parlé.
En fait, moi, j'ai l'impression que j'en capte des petits bouts. Alors, je m'excuse parce qu'il est, il est midi et demi et que je suis à table, mais il y a une scène qui raconte par l'absurde en fait tout ça, et notamment l'époque de Mao, c'est pour nourrir ses enfants, en fait quelqu'un va dans les déjections de toute la troupe pour trouver des vers, et là ils se font arrêter parce que en fait quelqu'un veut prendre individuellement le bien commun. Et je trouve que ça, je me suis dit, mais c'est pas une seule scène, et il y a vraiment, et ça, c'est, ça me paraît intéressant, mais une fois encore, c'est mon inculture de tous ces moments-là, à part le moment que je connais le plus, qui est le moment justement de l'époque de Mao, qui fait que, ça, en fait, ça me crée une distance, mais qui est ma distance à moi, et qui fait que je n'apprécie pas totalement. Par contre, en effet, tout ce que ces moments-là, et notamment le moment de la révolution culturelle, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. On perçoit ça, c'est très intelligemment fait. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque irréprochable. Ce que je fais là, c'est des coups de canif à quand même quelque chose qui est assez monumental. Et de nouveau, qu'on n'a pas l'occasion non plus de voir tous les jours ou toutes les semaines au cinéma. Et il faut aussi remercier un distributeur qui prend le risque de sortir un film de 3 heures qui est Carlotta. Voilà, et de le présenter au public. Il a beau avoir eu un prix qui est le prix spécial.
Le prix spécial du jury.
Voilà, qui est un peu comme Big Anne à Cannes avec son film. C'est un prix spécial qui dit quelque chose. Mais voilà, je mets vraiment des coups de canif pour faire le grognon et le ronchon. Mais bon, ça reste quand même très fort.
On se demande pourquoi il est arrivé si tard. C'est parce qu'il n'y avait pas de distributeur.
Oui, certainement.
Oui, puis c'est sa première fiction. Il y a pas de... Et puis, voilà, faut arriver à pouvoir sortir, trouver des salles, en fait. C'est l'acheter, ensuite trouver des salles qui acceptent. Ça veut dire un pari pour qu'il reste plus longtemps. Qu'au bout de 2 semaines, il ne soit pas dégagé. Et c'est vrai que Carlotta, qui a ce savoir-faire en termes beaucoup de films plutôt plus anciens, de films de patrimoine, bah, prend ce risque-là, on peut le saluer.
Raphaël Pirère, on a parlé de l'humour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sons, de tableaux. On l'a entendu dans la bande-annonce. Ces moments comme ça, de farce à l'ancienne, en fait.
Oui. Et le film est porté aussi par deux personnages très grotesques qui sont tête de bœuf et visage de cheval, qui sont chargés d'emmener.
On aurait pu les citer, c'était tout de suite intéressant.
Le comédien dans l'au-delà, et bon, lui, il résiste un peu. Il a pas tellement envie d'aller dans le royaume des morts maintenant. Donc c'est l'occasion de re-raconter sa vie. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans la farce, dans le grotesque, dans quelque chose de très qui colle un peu. Effectivement, Thierry parlait de cet épisode sur la merde d'État, et donc on raconte vraiment la Chine par quelque chose de très prosaïque et de qui tâche un peu, oui.
A New Old Play de Chu Jong-jong sur les écrans aujourd'hui, et nous avons parlé également de Life of Chuck de Mike Flanagan. Merci beaucoup Raphaël Pirère, merci Thierry Chaise d'être venu dans les Midis de Culture. Je vous rappelle que toutes les références des films dont nous avons parlé et dont nous parlons chaque semaine, tous les mercredis, sont évidemment disponibles sur la page des Midis de Culture. Bientôt, le journal.